VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Bagassi Kouré, Jean-Roger Pion, en votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du mardi 10 mai 2016. Au sommaire ce matin,
le procès de Laurent Gbagbo a repris hier à La Haye, où il est accusé de crimes contre l'humanité. Celui de son épouse Simone Gbagbo a lui été fixé au 31 mai à Abidjan.
En RDC, Moïse Katumbi est retourné libre chez lui après des heures d'audition hier au palais de justice de Lubumbashi pour recrutement présumé de mercenaires.
Au Tchad, le chômage de jeunes diplômés fait grincer des dents.
Il est inadmissible de former les jeunes et les abandonner dans la nature. Ce sera faire les enfants sans assurer l'éducation.
Nous sommes à quelques semaines du jeûne musulman. Si vous n'êtes pas encore marié, à Conakry, ce semble-t-il le bon moment de le faire.
Beaucoup cherchent la bénédiction de la famille en ce moment. Donc ils préfèrent attendre à l'approche du mois de carême pour le faire.
C'est bon, c'est un mois qui porte de la chance au couple.
Au Brésil, la saga continue dans l'affaire Dilma Rousseff. Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Alors Jean-Roger Bion, plusieurs informations judiciaires ce matin. Hein. On commence par la Côte d'Ivoire.
Le procès de Laurent Gbagbo a repris hier à La Haye, où il est accusé de crimes contre l'humanité. Celui de son épouse Simone Gbagbo aussi a repris. Mais à Abidjan, plus de détails avec vous, Mélisse Seguel.
Simone Gbagbo a été chaudement applaudie par ses partisans à son arrivée hier devant la cour criminelle à Abidjan. L'ancienne première dame est accusée de crimes contre l'humanité pour les violences post-électorales de 2010 et 2011. Le procès de son mari Laurent Gbagbo a repris hier à la CPI. Simone Gbagbo est jugée en Côte d'Ivoire parce que les autorités ivoiriennes ont refusé son transfert à La Haye. Maître Rodriguez Dadjé, avocat de Madame Gbagbo.
Elle souhaite être jugée par une cour ivoirienne. Pourquoi ? Parce qu'elle est accusée d'avoir commis des crimes vis-à-vis de ses ressortissants, les ressortissants ivoiriens. Donc c'est devant les ressortissants ivoiriens qu'elle a à s'expliquer. Mais n'empêche que la justice ivoirienne n'est pas indépendante et elle est sous la pression du pouvoir politique. Et je dirais qu'il y a de fortes chances qu'elle soit condamnée, même s'il n'y a aucun élément de preuve dans le dossier, comme c'est le cas pour l'instant.
Simone Gbagbo, 70 ans, a déjà été condamnée à 20 ans de prison, mais elle a toujours clamé son innocence. Pour ce nouveau procès, le procureur Sungalo Koulibaly espère que justice sera rendue.
Pour les victimes, j'attends quand même que le droit soit dit, qu'il y ait une justice pour les victimes qui en ont tant souffert. S'il faut la réconciliation, il faut qu'une justice soit rendue.
Si Mme Gbagbo est reconnue coupable, elle risque la prison à perpétuité.
Au Burkina Faso, au moins deux magistrats travaillant sur l'enquête relative au coup d'État de septembre ont été dessaisis de ce dossier épineux avec des ramifications diplomatiques, Idriss Fall.
Le lieutenant-colonel Norbert Koudougou, procureur militaire, et le juge d'instruction Stéphane Rapadem Naba ont été dessaisis par des décrets présidentiels. Officiellement, il s'agit d'un réaménagement technique. Trois juges d'instruction, deux militaires et un civil instruisaient les dossiers du putsch manqué et de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Le 28 avril, la Cour de cassation a annulé pour vice de forme les mandats d'arrêt contre l'ancien président Blaise Compaoré pour son implication présumé dans la mort du président Sankara en 1987 et contre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, après les désormais fameuses écoutes téléphoniques. Le très médiatisé procureur militaire Norbert Koudougou avait annoncé dès le lendemain que la justice allait réémettre ses mandats d'arrêt contre au moins 17 personnes, dont l'épouse du général Gilbert Diendéré, cerveau présumé du coup d'État manqué du 17 septembre.
En RDC, l'opposant Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle censée avoir lieu avant la fin de l'année, a été entendu pendant près de 7 heures lundi par la justice pour répondre d'accusations de recrutement de mercenaires étrangers. L'ancien gouverneur du Katanga est ressorti libre du palais de justice de Lubumbashi. L'audition s'est passée dans les règles de l'art, a déclaré son avocat. Elle doit reprendre demain.
Et pour clore ce chapitre judiciaire sur le continent, notons que deux anciens bourgmestres rwandais comparaissent à Paris pour leur participation présumée au génocide. Octavien Nguenzi et Tito Barahira, qui nient les faits, sont accusés d'avoir directement participé au massacre de centaines, voire de milliers de Tutsis en avril 1994 à Kabarondo, essentiellement des réfugiés regroupés dans l'église de cette commune de l'est du Rwanda. Les deux hommes qui se sont succédés à la tête de la localité seront jugés pendant 8 semaines pour crimes contre l'humanité et génocide pour une pratique massive et systématique d'exécution sommaire en application, je cite, d'un plan concerté tendant à la destruction du groupe ethnique Tutsi.
L'agence de l'ONU pour les réfugiés appelle le Kenya à revenir sur sa décision de fermer les camps de réfugiés somaliens et sud-soudanais qui, selon Nairobi, posent de sérieux problèmes de sécurité. Les précisions, Michel Joseph.
Le HCR réagissait à l'annonce vendredi par le ministère kényan de l'Intérieur d'un projet de fermer, dans les délais les plus brefs possibles, le vaste camp de Dadaab qui abrite quelque 350 000 réfugiés, essentiellement somaliens. Nairobi envisage de faire de même du camp de Kakuma, qui s'est progressivement étendu à la faveur de plus de 2 ans de conflit au Soudan du Sud voisin. Appelant les autorités kényanes à revoir leur position, l'agence onusienne en charge des réfugiés leur a, par la même occasion, rappelé qu'une fermeture des camps dans les conditions actuelles pourrait violer les obligations internationales du Kenya. Le HCR avait annoncé en janvier qu'il comptait rapatrier sous une base volontaire jusqu'à 50 000 Somaliens en 2016. Dans sa déclaration publiée vendredi, le ministère kényan de l'Intérieur a fait état des immenses défis sécuritaires que pose l'accueil des réfugiés, notamment les attaques des islamistes somaliens d'Al-Shabaab qui ont tué des centaines de personnes au Kenya ces 3 dernières années.
L'ONU s'inquiète de la situation alimentaire au Zimbabwe. Le Zimbabwe touché par une grave sécheresse. Ce lundi, les Nations Unies ont estimé que le pays a besoin de 290 millions de dollars pour nourrir quelque 4,5 millions de personnes d'ici les prochaines récoltes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Égypte, 2 personnes sont mortes et 88 personnes ont été blessées lundi dans un incendie qui s'est rapidement propagé dans 5 immeubles d'un quartier commerçant du centre du Caire. L'origine du sinistre est inconnue pour l'heure.
Au Brésil, journée rocambolesque digne d'une telenovela dans l'affaire Dilma Rousseff. Le président du Sénat a ordonné dans l'après-midi de ce lundi la poursuite de la procédure de destitution de la présidente. Ce nouveau rebondissement ignore la décision, je cite, intempestive de suspension prise quelques heures plus tôt par le président par intérim du Congrès des députés, Eric Manirakiza.
C'est un véritable bras de fer qui s'engage entre les deux chefs des deux chambres du Parlement brésilien. Waldir Maranhão, président intérimaire du Congrès des députés, avait annulé dans la matinée le vote du 17 avril, estimant que la procédure de destitution qui a visé Dilma Rousseff constituait un préjugement et avait porté atteinte au droit à une pleine défense de la présidente. Il voulait par conséquent convoquer une nouvelle session pour délibérer sur la question. Mais dans l'après-midi, le président du Sénat, Renan Coreiros, a ignoré la mesure en maintenant la poursuite de la procédure. Se référant également au vote des députés du 17 avril, M. Coreiros a considéré qu'aucune décision autocratique ne peut s'imposer à une décision collégiale. Les deux personnalités ne s'entendent donc pas sur l'interprétation à donner à l'action des hommes d'Eduardo Cunha, stratège de la procédure d'impeachment de Mme Rousseff, et son farouche ennemi, suspendu jeudi dernier de ses fonctions du président de la Chambre pour entrave aux enquêtes le visant dans le cadre du scandale de corruption Petrobras. Face à cette cacophonie, le tribunal suprême fédéral pourrait trancher s'il est saisi par l'une ou l'autre partie, ou tout simplement par la partie lésée.
Au Canada, les gigantesques feux de forêt dans la région de Fort McMurray, toujours actifs, ont été arrêtés in extremis avant d'atteindre le centre de la ville, largement épargnés, mais le retour des habitants n'est pas envisageable au moins 2 semaines selon les autorités.
Un geste qui risque de faire beaucoup de remous dans le monde, les Panama Papers, à l'origine d'un retentissant scandale d'évasion fiscale mondiale, ont été partiellement mis en ligne ce lundi sur le site du Consortium international des journalistes. Une base de données contenant quelque 200 000 noms d'entreprises et de particuliers a été ouverte au public sur la base des 11,5 millions de documents du cabinet panaméen Mossack Fonseca.
La Russie et les États-Unis se sont engagés à redoubler d'efforts pour aboutir à un règlement politique du conflit syrien et étendre le cessez-le-feu. La Russie et les États-Unis, qui coprésident le groupe de soutien international à la Syrie, qui compte 17 pays, pilote le dossier et le contrôle du cessez-le-feu instauré sous leur impulsion le 27 février.
Le Conseil de l'Europe appelle ses États membres à ne pas criminaliser l'assistance sociale et humanitaire aux migrants irréguliers. Dans des recommandations rendues publiques ce mardi, le Conseil demande aux services sociaux européens de ne pas communiquer les données personnelles de ces migrants.
Un gigantesque défilé a été organisé aujourd'hui dans le centre de Pyongyang pour célébrer la fin du congrès exceptionnel du Parti unique qui a consacré Kim Jong-un à la tête du régime le plus isolé au monde. Cette réunion a permis à Kim Jong-un, qui a hérité du pouvoir à la mort de son père Kim Jong-il en 2011, d'asseoir son statut d'héritier incontesté de la dynastie familiale fondée par son grand-père Kim Il-sung. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec Nathalie Barge.
La flambée du prix de la noix de cajou menace la campagne de commercialisation en Guinée, rapporte Guinée News. Initialement vendu à 5 000 francs guinéens, le kilo se négocie aujourd'hui entre 10 000 et 10 500 francs, indique le journal en ligne. L'échec de la campagne s'explique par le faible rendement de la première récolte et une mauvaise organisation de la filière, selon un responsable de la commercialisation à Bokeh. Ouverture à Dakar hier d'un atelier sur les réformes du financement public de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, rapporte l'APA. Au cours de l'atelier de 3 jours, les représentants vont dresser une feuille de route sur la mise en œuvre des réformes qui démarrent l'année prochaine. Maurice arrive en tête du classement des pays africains ayant attiré le plus de millionnaires entre 2007 et 2015. Selon le rapport 2016 sur la richesse en Afrique de l'Institut britannique New World Wealth, le nombre de millionnaires ayant choisi l'île Maurice comme résidence secondaire a augmenté de 160% en 9 ans. L'Éthiopie occupe la deuxième place avec une hausse de 130%. Viennent ensuite la Tanzanie, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Gabon, la Namibie, le Botswana et le Nigeria, également en hausse. Un nombre en recul de 10% en Afrique du Sud, où quelques 240 millionnaires ont choisi de s'établir à Maurice depuis 2007.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique en direct de Washington. C'est l'heure des sports. Bonjour Nicolas Pinault.
Bonjour Bagassi.
On commence par cette triste nouvelle, un nouveau décès sur un terrain de football. Cette fois-ci, c'est au Cameroun.
Terrible loi des séries, moins de 48 heures après le décès tragique de Patrick Ekeng à Bucarest. Le football camerounais a de nouveau été durement touché dimanche. Janine Christelle Djomnang, la gardienne de but de Femina Stars des Bolowa, a succombé à un malaise avant un match de la 6e journée du championnat de première division qui opposait son club à Louvain Minprof. La jeune femme s'est écroulée lors de l'échauffement juste avant la rencontre. Elle est décédée quelques minutes plus tard.
Toujours en football, le TAS réduit à 4 ans la suspension de Michel Platini.
Le tribunal arbitral du sport a réduit hier de 6 à 4 ans la suspension de Michel Platini de toute activité liée au football. Il s'agissait du dernier recours dans le monde du sport pour l'ancien capitaine des Bleus qui démissionne de la présidence de l'UEFA pour poursuivre son combat devant les tribunaux suisses. Sachez que le TAS a également réduit de 72 à 54 000 euros l'amende infligée par la FIFA à l'ex-patron du football européen.
Et puis match amical entre le Togo et la Zambie, ce sera le 27 mai.
Les deux équipes disputeront la rencontre à Lomé au stade de Kégué pour préparer les qualifications à la Coupe d'Afrique 2017. On rappelle que pour la 5e et avant-dernière journée de qualification, le Togo et son nouveau sélectionneur, le français Claude Leroy, se rend au Liberia. Ce sera le 3 juin avec obligation de gagner pour conserver une chance de se qualifier. Enfin Bagassi, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Miami est revenu à égalité, 2 victoires partout dans la demi-finale de conférence Est qui l'oppose à Toronto en s'imposant 94 à 87 après prolongation hier soir en Floride. Dwayne Wade s'est montré décisif en inscrivant 30 points au total, en égalisant à 12 secondes de la sirène et avec une interception conclue par un dunk en prolongation. Le match 5 aura lieu demain au Canada. Dans l'autre match de la soirée, les Golden State Warriors, avec Stephen Curry de retour de blessure, ont battu donc Portland pendant les prolongations 132 à 125. Les Warriors dominent désormais cette série 3 à 1.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La Bagassi-Coura de retour avec vous. Place maintenant au dossier du jour. On commence par le Tchad où une coalition des lauréats issus des écoles professionnelles et universitaires renoue avec sa revendication 5 mois après la promesse du gouvernement de recruter plus de 500 jeunes à la fonction publique. Les membres de cette coalition veulent être situés. Allez, André Kodmadjinga, vous êtes notre reporter sur place.
Après avoir observé un moratoire de 2 mois de peur d'être manipulé par le personnel politique avant et pendant la présidentielle du 10 avril 2016, la coalition des lauréats en instance d'intégration à la fonction publique remet en marche sa machine de lutte pour la défense des droits des jeunes diplômés sans emploi.
Il est inadmissible de former les jeunes et les abandonner dans la nature. Ce sera faire les enfants sans assurer l'éducation. Un risque grave pour la cohésion, l'unité et la sécurité nationale.
Lui, c'est Alarama Dimo, l'un des porte-parole de la dite coalition. Un semestre après la promesse du gouvernement, celle de procéder au recrutement de 5063 jeunes diplômés tchadiens, dont 2000 par la contractualisation et 3065 par le remplacement numérique, cette coalition s'impatiente et rompt avec le silence.
Pour éviter toute surprise désagréable, la coalition demande au gouvernement de faire toute la lumière sur les termes de ce contrat, à savoir les critères de sélection des candidats, le quota octroyé par institution et filière, puis les avantages afférents à ces contrats. Demandons à la représentation de la coalition au sein des différentes commissions créées pour le traitement des dossiers.
Pour Bero Djingar, coordonnateur de la dite coalition, les diplômés sans emploi des différents secteurs doivent également trouver leur compte dans ce recrutement.
Nous demandons au gouvernement d'instruire les différents directeurs de ressources humaines des ministères afin d'exprimer officiellement le besoin de recrutement des agents à leur ministère correspondant. Nous proposons également au gouvernement de recruter massivement ceux qui finissent par exemple dans les domaines techniques qui peuvent enseigner les mathématiques parce qu'on a un besoin réel en mathématiques et jusqu'à là on laisse les universitaires traîner.
Alarama Dimongar, l'un des porte-parole de la dite coalition, dénonce et met en garde les autorités politiques dans le traitement de leurs dossiers.
La coalition engagera des actions conséquentes et tiendra pour seul responsable le gouvernement si les arrêtés en cours sont politiques, ne prenant pas en compte nos revendications légitimes.
Une demande d'autorisation d'une marche pacifique prévue pour le 16 mai prochain a été déposée sur la table du ministre de la Sécurité publique, informe le coordonnateur de la coalition des lauréats issus de des écoles professionnelles et universités du Tchad.
Nous demandons la présence des forces de l'ordre pour l'encadrement de cette marche pacifique afin d'éviter l'intrusion des personnes mal intentionnées qui troubleraient l'ordre public.
André Kodumadjinga Ndiamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndiamena au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
Voilà, un clin d'œil à tous nos auditeurs hein, de FM Liberté à N'Djamena au Tchad. Direction le Mali à présent, revenons sur ce sujet hein, dont nous parlions hier matin sur nos antennes. La multiplication ces derniers temps des affrontements intercommunautaires entre agriculteurs et éleveurs peuls en Afrique de l'Ouest. Dernier exemple en date, le Mali. Là-bas, les affrontements récents entre Peul et Bamana à Kareri dans la région de Mopti, c'est dans le centre du pays, ont fait plus de 50 morts. Une mission gouvernementale a été dépêchée sur place pour veiller au retour de l'administration et à la création d'un poste de sécurité dans la zone de Bamako. La correspondance de Kassim Traoré.
Les affrontements intercommunautaires de la semaine passée à Tenoku ont occasionné la mort d'une vingtaine de personnes et le déplacement en masse de nombreuses populations vers d'autres localités. Abba Ibrahim Abba, maire de la commune rurale de Nampala.
Les victimes, c'est les 80% sont de Nampala, de ma commune. Seulement, ce que je viens de dire, les ministres sont très bienvenus. Ils sont venus à temps aussi. Rien ne vaut la paix. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ça s'est déjà fait. Les morts sont partis, ils ne vont pas revenir. Mais seulement, pensons à ramener la paix dans notre pays.
Dans le fait de l'action, pour ne pas dire au moment des affrontements, une première mission gouvernementale avait passé afin de rappeler les deux parties au calme et d'arrêter les affrontements. Mohamed Ad Erlaf, ministre de la décentralisation et de la réforme de l'État.
Globalement, l'objectif de la mission a été atteint parce qu'il s'est agi, dès le déclenchement des hostilités dont vous avez entendu parler, de venir ici, essayer de trouver le calme nécessaire à la réflexion qui va nous conduire à toutes les opérations un peu plus longues de réconciliation. Cet objectif a été atteint. Donc, la commune de Kareri sera sécurisée par les forces armées et de sécurité.
Le gouvernement se réjouit car après avoir écouté les deux parties, intérêt d'entente a été trouvé, ce qui rassure le ministre Ag Erlaf.
Nous avons déjà la preuve que les populations se sont réconciliées parce que la population peut l'enquêtant laisser ses animaux. Et la communauté Bambara a promis qu'aucun de ces animaux ne mourra de soif parce qu'elles vont garder cette fortune. C'est la seule que les nomades ont en attendant que tous ceux qui ont fui de peur de représailles ne reviennent dans leur site de fixation d'origine.
Comme garant de cette entente, les élus de la localité, avec à leur tête les députés de Ténankou, le doyen Abdraman Niang.
Le mardi prochain, les principaux membres de cette commission vont se retrouver à Bamako pour élaborer un programme de travail avec le soutien du gouvernement. Donc nous sommes optimistes.
Le chef de la délégation gouvernementale a donné des assurances quant au respect des clauses de cette nouvelle paix retrouvée. Selon le ministre Amadou Konaté, l'État jouera sa partition afin de restaurer la paix totale. Aucun affrontement ne sera permis entre les communautés sur le territoire malien, a ajouté le ministre Konaté. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Du 9 mai au 8 juin 2016, le Togo protège sa population contre trois maladies tropicales négligées, notamment l'onchocercose, les géohelmintiases et les schistosomiases. Il s'agit de campagnes de déparasitage couplées avec des sensibilisations sur l'hygiène et l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kayla Osson.
Débutée ce 9 mai pour une durée d'un mois, la campagne de masse contre les maladies tropicales négligées MTN veut répondre aux souhaits des autorités togolaises d'éradiquer certaines pathologies sur leur territoire. Elle vise notamment à intensifier les actions en vue de soutenir les résultats obtenus ces cinq dernières années. Edmond Kofi Sonikin, point focal MTN au ministère togolais de la Santé.
De 2009 à 2015, la couverture nationale des géohelmintiases a baissé de 33% à 11,6%. Les schistosomiases également, les prévalences ont baissé de 23% à 5%. Par rapport à l'onchocercose, le Togo veut passer du contrôle à l'élimination. Donc, il faudra intensifier les traitements de masse.
Qu'est-ce qui sera fait au cours de cette campagne? Des explications avec Akofa Yao, point focal MTN dans le district sanitaire du Golfe.
Au cours de cette période, nous allons administrer des produits tels que l'albendazole et le praziquantel. Donc, dans notre zone, c'est-à-dire dans le district du Golfe, selon la prévalence, nous aurons à traiter les enfants d'âge scolaire, c'est-à-dire les 5 à 14 ans, à l'albène. Maintenant, par rapport aux schistosomiases, les aires sanitaires qui auront à traiter au praziquantel, c'est toute la population, exclut les moins de 5 ans.
Yawa Hazou est agent de santé communautaire ASC. Durant cette campagne, elle aura à sillonner les maisons pour mener à bien sa mission. Une mission dont elle nous parle.
Lors des campagnes, on sensibilise la population d'abord. On n'est pas de la maladie tropicale négligée. Comment on l'attrape, comment l'éviter et comment faire pour être traité. On les recense d'abord dans les ménages et on distribue les produits concernés par la campagne. Pour la filarie lymphatique, on apprend aux personnes malades comment faire pour être soulagées. Donc ça consiste à laver les pieds gros avec de l'eau, du savon, faire des gestes gymnastiques et prendre les produits concernés.
Cette campagne ne peut réussir sans l'apport des ASC qui ont été formés pour diverses tâches. Nous retrouvons le point focal MTN Golf à Kofa Iao.
Il y aura aussi la sensibilisation par rapport à certains comportements de la communauté pour pouvoir prévenir certaines maladies tropicales négligées telles que le trachome. Les ASC sont outillés à sensibiliser la population par rapport au lavage de visage, par rapport au lavage des mains. Ils auront aussi à sensibiliser la population par rapport à l'utilisation de l'amylda, afin de ne pas être en contact avec les moustiques et éviter le paludisme et la filariose lymphatique.
Selon le ministère togolais de la Santé, toutes ces actions intégrées ont permis, entre autres, d'interrompre la transmission de la filariose lymphatique sur tout le territoire togolais. Kailson Lomé, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En Guinée, à quelques semaines du jeûne musulman, c'est-à-dire le ramadan, les mairies sont débordées par le nombre croissant des demandes de mariage. Le pays vit au rythme des cérémonies suivies de cortèges et autres embouteillages dans la circulation. Zakaria Kamara nous peint le tableau.
Des cortèges de véhicules ou de motos, tels sont les maîtres des rues de Conakry à l'approche du mois de ramadan. C'est la période des mariages.
Beaucoup cherchent la bénédiction de la famille en ce moment. Donc ils préfèrent attendre à l'approche du mois de carême pour le faire.
C'est bon, c'est un mois qui porte de la chance au couple. Et les gens veulent, pendant le carême, qu'ils ne soient pas célibataires, que sa femme ne traite pas. C'est légitime dans tous ces facteurs-là.
Bénédiction, mais pas seulement. Pour tout autre citoyen, le mois de jeûne musulman est mieux indiqué pour apprécier la nouvelle mariée dans certaines familles.
Si les gens ont plus tendance à se marier avant le mois de carême, c'est que le mois de carême est béni. Surtout chez la femme, c'est elle qui doit préparer le petit déjeuner, tout. Donc, lorsque la femme effectue ses travaux, on va savoir déjà si c'est une femme qui est bonne ou si c'est une femme qui est mauvaise.
À quelques semaines du mois de Ramadan, les mariages sont célébrés presque dans toute la capitale. Une forte demande qui s'expliquerait, selon ce jeune célibataire, par les difficultés d'être seul pendant 30 jours de jeûne.
Ils ne peuvent pas supporter tout le fardeau du mois de Ramadan. Surtout que là, on doit bien manger le soir après une dure journée de travail. Et pour certains jeunes, c'est plutôt difficile de partir chez les parents et manger là-bas. Et voir aussi leur mère travailler, généralement, ça gêne.
Depuis quelques jours, les mariages sont célébrés, même les jours ouvrables. Et les mairies débordées ont trouvé d'autres endroits dans les quartiers pour la circonstance. Des cérémonies organisées créant par endroits des bouchons dans la circulation, comme le témoigne cet automobiliste.
À partir de vendredi jusqu'au dimanche, il n'y a presque pas de route, parce que pratiquement tous les carrefours sont bloqués. Les usagers n'ont pas où aller. Vraiment, c'est une situation quand même très difficile à supporter.
En 2015, près de 3000 certificats de mariage ont été signés à la mairie de Matoto, un tiers célébré à l'approche du mois de Ramadan. Conakry, Zakaria Kamara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, merci pour votre fidélité. C'est la fin de cette édition présentée par Bagassi Koura et Jean-Roger Bion. Production assurée par Lionel Gaïma. Ainsi va le monde aujourd'hui. Très bonne journée à tous. On maintient la conversation sur Facebook et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique.